Je voudrais bien que vous occupiez toutes les places dans le centre pour éviter que des gens doivent amener des chaises et se mettent dans le couloir, quoi, si c'est possible.
Bon, alors on va reprendre maintenant. Donc je vous rassure tout de suite, il n'y a plus beaucoup de théorie. On va voir des images et on va accrocher ces images à ce que nous venons de voir. Toutes les séquences que vous allez voir sont filmées avec une tablette durant les séances. Et tout un coup, je vois un moment qui est beau, je prends ma tablette et je filme dans la mesure du possible. Et vous allez voir qu'à certains moments, il y a des enfants qui prennent la tablette pour filmer. Et même dans les plus grands, parce que je travaille aussi avec des enfants de 11, 12 ans, ils en font des scénarios. Et par exemple, il y en a un qui jouait un jeu qui peut surprendre, mais voilà, qui arrive spontanément et qui se jette du haut de l'espalier et qui dit « Je me suicide ». Et hop, il arrive, il saute du haut de l'espalier sur le grand matelas, il s'écroule. Je prends la tablette, je filme tout en soignant celui qui est suicidé. Et puis, ils en ont fait tout un scénario. Ils ont rejoué ça et ils ont commencé à vraiment se réassurer par rapport à cette mort, par rapport à la peur de se perdre ou par rapport à leurs angoisses. Donc, la qualité des images, mais vous allez voir, par moment, ils commentent aussi, ils ont la tablette et ils commentent ce que l'autre fait. Je trouve ça très beau, mais bon, vous verrez. Alors, on va reprendre donc l'approche psychomotrice de ces enfants selon la pratique de Bernard Aucouturier. Et je vais essayer de relier ce que nous faisons avec l'approche d'André Bullinger, parce que je pense que ça fonctionne tout à fait en parallèle. Et donc, voilà. Pour Bernard Aucouturier, je vous assure tout de suite, il n'y a plus que deux extraits et puis c'est fini. C'est pour l'enfant la manière de manifester le plaisir d'être soi, de se construire autonome et de manifester le plaisir de découvrir et de connaître le monde qui l'environne. Donc dans le jeu, dans l'expression motrice, psychomotrice, nous retrouvons vraiment ça lors de ces séances. Donc en pratique psychomotrice, nous allons vraiment aborder l'enfant dans sa globalité et là où il en est dans son développement. Et ça, c'est fondamental. Et on va l'accompagner dans son développement, on va l'écouter, on va lui renvoyer une image de lui, on va le reconnaître et on va le soutenir dans sa découverte de l'environnement, dans son ancrage. Bernard Aucouturier a déterminé différentes formes de jeux, des jeux de réassurance profonde, des jeux sensorimoteurs, puis il y a les créations des enfants qui sont déjà des représentations, déjà d'ailleurs, et il y a vraiment un espace de représentation fin de séance qui permet à l'enfant de prendre du recul par rapport à ce qui vient de vivre dans son corps. Les jeux de réassurance profonde, voilà, vous allez voir qu'ils vont casser, qu'ils vont construire, qu'ils vont faire des jeux de chute, qu'ils vont attraper ou qu'ils vont demander pour être attrapés, qu'ils vont se cacher, qu'ils vont retrouver, qu'ils vont se confronter, qu'il va y avoir des jeux de combat, qu'ils vont faire semblant d'être blessés, de mourir. Et je vous assure que ça arrive, mais plus que souvent. Ou bien, donc il y aura le coin douceur pour se faire soigner, de se faire contenir, se faire envelopper. Il y a les jeux sensorimoteurs, où là aussi, c'est le plaisir de courir, de marcher, de courir, de grimper, de se dépasser. Et ça, quand il commence à aller bien, c'est un plaisir énorme quand un enfant qui n'osait pas monter sur le plinth et qui grimpe sur le plinth et qui arrive à faire le saut. Et, madame, j'ai réussi, madame, j'ai réussi. Et c'est l'enthousiasme. Et là, vous voyez qu'il est un, qu'il est ancré, qu'il a réussi quelque chose, il prend confiance en lui. Alors, pour ces séances, nous allons donner à l'enfant cet arrière-fond dont parle André Bullinger. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir des séances régulières, d'avoir un même rituel, une même structure et des lois bien définies. Les séances régulières, ça c'est vraiment très important. Il faut prévenir, parce que souvent c'est le premier jour que l'enfant retient, pour les tout-petits, il dit « Ah, je viens chez toi dans 3 fois dormir », c'est ce que les petits disent. « Ah, aujourd'hui, madame, on est le jour bleu, c'est jeudi, je viens chez toi ». Et donc, c'est un repère. Ils attendent cette séance de semaine en semaine. Et c'est très important de maintenir ça. Dès qu'on permute l'horaire, on les met dans le brouhaha, dans le flou. C'est une salle de psychomotricité qui sert qu'à la psychomotricité. C'est un lieu où il y a tout un rituel et un cadre. Il se fait qu'ici, au pagode, ils enlèvent les chaussures et les chaussettes en dehors de la salle. Vous allez voir aussi que je regarde, mais ils aiment bien en plus, s'ils ont des poux, parce que sinon, dans tous les tissus, tout le monde en aurait tout de suite, rapidement. Et donc, ils présentent leur terre régulièrement, parce que c'est nouveau une manière d'être rompu, d'être touché, parce que je leur fais passer, je leur passe les mains dans les cheveux. Il me demande de regarder. Tu regardes encore? Alors, la séance aussi est contenue, mais par des lois bien établies qui sont rappelées à chaque début de séance, même si madame on connaît, j'y non. Et je leur fais dire les lois au fur et à mesure. Et c'est très intéressant parce que ils vont dire ce qui les touche, eux. Il y a des enfants qui vont me dire, des petits garçons qui vont me dire, ici on peut pleurer. Où on peut se fâcher, on peut bouder. Il y en a un autre qui me, un grand là maintenant, Jérôme, pour l'épreuve d'ici, qui me dit, ici on peut écraser. Et alors certains, ici on peut casser. Mais il y a aussi des enfants qui paniquent quand ils entendent ces lois. On peut casser, mais moi on m'a toujours dit qu'on ne pouvait pas casser. Et on a vraiment vu un petit enfant cette année-ci, à la première séance, qui a commencé à paniquer, en sachant qu'ici, on pouvait casser. Donc, on dit aussi tout ce qu'on peut faire. Il y a juste 3 lois qu'on dit qu'on ne peut pas faire. C'est on ne peut pas se faire mal, on ne peut pas faire mal à l'autre et on ne peut pas casser les constructions des autres. C'est intéressant parce qu'il y a aussi des enfants qui n'arrivent pas à dire ce qu'on peut faire. Ils vont juste dire ce qu'on ne peut pas faire. C'est très interpellant. Donc, dans ce cadre bien défini, ben voilà, les séances se présentent ainsi.
1. Vous pouvez y aller, vous êtes prêts? Mettez-vous tous debout. Chaise, tu ne mets pas debout, tu ne peux pas aller.
On va arrêter. Et ça ne bouge pas.
C'est normal, ça bouge là, mais ça ne bouge pas.
Ah, ici, d'accord. Ok.
Ouais. Pour voir si
ça,
c'est encore fort.
On passe déjà à la suivante. Bon, là, ça devrait aller. Regarde, là, ça oui, bien. On n'entend plus rien.
C'était trop fort. Maintenant, on n'entend plus rien.
Mais on n'entend plus rien ici aussi.
Oui, c'est ça qui est bizarre. Mais je diminue le son, mais on devrait quand même entendre. Allez, on va peut-être tester avec une autre.
Paul, vous pouvez y aller, vous êtes prêt?
Ok, là ça fonctionne. J'ai l'impression que ça dépend des vidéos en fait, il y en a certaines où il n'y a pas le son.
Oui, j'ai des vidéos sans son.
Ok, je ne sais pas, c'est aussi une vidéo. C'est là, je ne sais pas s'il y a du son.
Oui, ils ont tous du son. Mais normalement, c'est la même.
C'était pas celle-là, hein. C'était...
Oui, non, c'était celle d'avant. On va recommencer depuis le début, hein, celle-là, oui.
Voilà.
Et trois.
Bien voilà, rien que sur cette petite DIA, on voit tout de suite. Donc ça, c'est l'intérêt. En fait, vous avez vu qu'ils sont quand même très peu, parce que ces enfants demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Ils sont très peu et c'est comme un petit groupe d'aide. Et c'est en fait un groupe d'aide, c'est un intérêt énorme parce que ça stimule d'autres enfants. C'est-à-dire que vous avez vu que ils vont amener dans des jeux que les autres n'osaient pas ou ne se permettaient pas et entraînent, permet à l'autre aux enfants d'observer ce qui se passe et petit à petit, ils vont entrer dedans s'ils en ont besoin. Vous avez vu déjà qu'il y a déjà Mathis là, qui n'ose pas demander de l'aide, qui regarde, il le fait juste dans le regard. Et donc petit à petit, il va apprendre à le dire, il va le dire. D'ailleurs, je crois que maintenant, il parle beaucoup plus qu'il ne parlait. Et voilà. On va voir d'autres débuts de séance.
Paul, vous pouvez y aller, vous êtes prêts? Mettez-vous tous debout. Thank you.
qu'en ce tout petit début de séance, la demande qui est faite, c'est « Madame, regarde-moi. Madame, je suis blessée. Madame, attrape-moi. » Il y a une demande énorme de tous ces enfants. Mais en même temps, ils arrivent à s'organiser. Ils apprennent petit à petit que je m'occupe de l'un puis de l'autre. Il faut vraiment les garder à l'œil ou leur dire « Oui, oui, je t'ai vu, je vais arriver. Je m'occupe. » Ils attendent à différer, en fait, l'interaction.
C'est là, on l'a vu, je ne comprends pas. Ok, photo. Alors, nous allons aussi donner cet arrière-fond dont parle Bullinger, non seulement par le cadre, mais aussi par notre par des contenants contre notre corps, dans des tissus, dans des hamacs, dans les grandes roues, dans des constructions, ou par notre regard. Et voilà. Hop. C'est une vidéo normalement qui n'a pas l'air de partir. Ah, c'est nouveau, moi qui ne la vois pas, évidemment. Voilà, je précise tout de suite que ces enfants, dans les couloirs ou dans le réfectoire ou à la cour de récré, ils peuvent être hyper agités ou insupportables. Alors qu'ici, c'est le moment où, au contraire, ils font le mort, ils font le blessé et on n'entend plus rien. C'est Midi qui filme. C'est un enfant que j'ai eu depuis 2 ans et qui a déjà bien compris. Je fais des efforts, vous entendez?
les femmes ont moi, j'ai tué des femmes.
Voilà, ça c'est déjà des ados de 12-13 ans. Ils cherchent des contenants pour que ce ne soit pas trop corporel, de corps à corps. Ils arrivent aussi à se mettre dans ces cylindres. Comme ça, ils gardent quand même leur pudeur et en même temps, ils s'écrasent quand même. Ils recherchent le contact et les limites de leur corps. Tout ça, c'est des créations des enfants. C'est tout à fait spontané. C'est, ils se font leur chez eux, leur contenant.
Ça a marché, bravo.
Thank you.
Alors, nous allons donner cet arrière-fond dont parle Boulanger par notre attitude, dans l'écoute, dans l'interaction, dans un dialogue tonico-émotionnel, en étant un médium suffisamment malléable. Voilà, ça c'est les étudiants de l'IORT qui viennent observer ou participer à une séance et qui découvrent le métier de psychomotricien. C'est Sophie qu'on voit par terre, qui est là, une des organisatrices de cette conférence, et qui est aussi bien massacrée. Alors, nous allons donner aussi un arrière-fond dont parle André Boulanger. Dans les expériences sensorimotrices. Donc on va leur permettre de pouvoir faire ces expériences sensorimotrices en s'assurant évidemment qu'ils puissent les faire dans une sécurité, mais ils vont pouvoir grimper, sauter, courir et inventer 10 000 choses avec tout le matériel que vous pouvez voir lors de ces vidéos. Je pense que... Oui. Oh, c'est une vidéo. Certains de ces enfants arrivent dans l'enseignement spécialisé, mais vraiment, d'abord, comme l'a dit Daniel, tout à fait, je dirais déprimé, si pas dépressif. Ils n'ont plus envie d'apprendre, ils n'ont plus envie, ils regardent par terre, ils sont complètement enfermés. Ils ont une carapace tonique incroyable, ils se protègent. Et là, on les revoit petit à petit quand ils entrent au centre pédagogique des Pagodes. Enfin, je ne veux pas faire la pub, mais on le voit quand même après 15 jours, 3 semaines. Ils se sentent bien. Ils aiment venir à l'école. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses que les parents viennent dire. Mon enfant, maintenant, il a envie d'aller à l'école. Il est plus ouvert. Il sourit. C'est tout à fait différent. Il est bien. Et nous, on voit une évolution incroyable assez rapidement. Quand je reprends des vidéos du début à la fin, on voit vraiment qu'il s'ouvre. Alors, ce n'est pas uniquement la psychomotricité, c'est aussi le travail qui est fait en classe, c'est le travail qui est fait au cours de musique, c'est le travail qui est fait à la gym, c'est le travail qui est fait chez les logopèdes. Je crois que c'est vraiment quelque chose, un travail de nouveau pluridisciplinaire. Là, j'avais arrêté une technicienne de surface en disant « Tu veux bien filmer, s'il te plaît, pour avoir un morceau comme ça ?» Donc, tout le monde participe. Vous avez vu le plaisir de gagner quand ils se lèvent comme ça en levant les bras et en sautant. Là, il y a de l'ancrage. Là, il y a de l'existence. C'est « Je suis ». Enfin, elle est là, triomphante, elle est bien, ça évolue.
Écarte tes bras de guerre. Et tu mets
moment, on doit arrêter de filmer pour plus assurer.
Et puis, nous allons encore donner, on donne avec plaisir, à l'enfance d'arrière-fond dont parle André Bullinger, par des jeux de réassurance. Et c'est les enfants qui, d'ailleurs, vont amener ces jeux de réassurance. On va entrer avec eux dans ces jeux. On va être un partenaire symbolique pour se réassurer par rapport à l'angoisse de se perdre soi et l'angoisse de perdre l'autre. Parfois, on ne doit pas intervenir, ils le font tout seuls.
Attraper et manger. Et qui va attraper qui? Moi, je dois faire quoi?
enfants, dans certaines petits extraits, il y a des enfants qui arrivent à demander ça, alors que quand ils sont arrivés à l'école, personne ne pouvait les toucher, qui faisaient des crises dans les couloirs parce que quelqu'un les avait frôlés. Et on voit vraiment une évolution, on voit même cette demande, attrape-moi, touche-moi, contiens-moi.
Il ne peut que construire la piste.
Il sait très bien qu'on ne peut pas casser la maison des autres, donc il cherche une solution.
Thank you. Alors, on va aussi donner cet arrière-fond dont parle Bélinger pour que l'enfant puisse construire, se créer. Et ceci aussi bien avec des coussins, que, donc avec le matériel que vous avez vu dans la salle, qu'un autre matériel lors de la représentation. Là, il essayait de maintenir un bonhomme. Il essayait que les deux coussins soient comme ça. Il n'arrivait pas à trouver l'équilibre. Mais il y a réussi, au final. Alors, vous aussi donner un arrière-fond, un cadre, en mettant des limites, en faisant respecter les lois. Donc, on rappelle toujours les lois en début de séance, mais il arrive qu'il y a certains enfants qui n'arrivent pas à respecter les lois, qui n'arrivent pas à se maîtriser. Et donc, en fait, j'ai trouvé comme solution les sabliers de 30 secondes, une minute ou de 3 minutes, qui doivent attendre le long du mur, durant la séance avec le sablier. Mais ce sablier est vite devenu un jeu et ils font des courses de sablier. Et là, on en voit un qui est très inquiet en se demandant si c'est le sablier de son voisin qui va gagner. Voilà, et enfin, on a... Pour terminer chaque séance, on a un espace de représentation où on raconte des histoires ou bien où les enfants peuvent dessiner, où il y a des jeux de construction, des pads à modeler, où l'écriture. Et là, je voudrais dire que ces enfants qui, par exemple, sont tout à fait dysorthographiques ou qui ne sont pas dans les apprentissages, après une séance comme ça, ils demandent tout d'un coup « Madame, comment on écrit ça ?» ou « Tu veux écrire ?» Et puis, ils vont recopier. Ils vont... Et c'est aussi un moment où, par exemple, ils disent « Comment on écrit ?» t'aimes, ou bien « Et c'est maman, je t'aime ?» On a toutes les orthographes possibles, mais c'est là que je crois qu'on a souvent des premiers mots d'écriture. Et ils partent avec leur enveloppe pour la personne à qui c'est destiné. Voilà, donc c'est toutes les expériences de... Il s'étonne qu'une bille va plus vite que l'autre, qu'une bille passe ou ne passe pas. Il découvre les volumes, les poids, la vitesse. Voilà, et puis pour venir à ce moment-là ou pour quitter la salle, il y a des enfants qui ont du mal, qui ne sont pas encore prêts, qui voudraient bien encore rester. Beaucoup d'enfants d'ailleurs voudraient dormir dans l'école. Oh, madame, on reste dormir ici, où ils n'aiment pas le week-end, ils n'aiment pas les vacances. C'est aussi à se poser des questions. Et donc ici... Ils se cachent, ils s'attachent à l'espalier, ils sont blessés, mourants, ils ne bougent plus. Voilà.
Je rappelle que c'est souvent des enfants hyperactifs qui sont là en dessous, cachés et qui ne bougent plus. Voilà, c'est tout à fait spontanément, il a envie de voler. Fin de séance, ils remettent leurs chaussures. Il y a toujours des choses qui se passent.
Se respecter et à s'entraider. Et ça, c'est spontanément, sans qu'on le demande, ils vont aller assister celui qui est en difficulté. Et Daniel, c'est à toi, les outils.
Alors, on va changer de... Je reprends celui-là. Oui.
Alors, moi, je ne suis pas du tout sur ce terrain-là. Je suis plutôt sur le terrain de l'accrochage avec ce qui est demandé en classe. Alors, après, il faut structurer. Moi, pendant que je voyais le film, enfin, je repensais à des choses que nous travaillons, comme par exemple un des défauts, enfin un défaut, une particularité on va dire de ces enfants, c'est qu'ils ont du mal à planifier, à organiser les mouvements, la séquence surtout. Je me disais, ben oui, faire cette montagne de cubes, juger de l'importance d'en mettre un avant l'autre, et puis de stabiliser, et puis de prendre des risques. Effectivement, après, cognitivement, c'est tout ce qu'il va falloir appliquer. Alors... ce sont des maturations qui viennent avec le temps, qu'on stimule, on n'attend pas, on stimule. Et puis, la classe arrive, on change de secteur, il faut être performant. Et moi, je suis face à beaucoup d'enseignants qui sont très inquiets, parce qu'ils se sentent impuissants, et puis parce qu'il y en a 25, enfin, en spécialisé, il y en a un peu moins, mais enfin, le problème n'est quand même pas de l'individualité. Alors, on peut agir à plusieurs niveaux. On peut certainement réfléchir sur les outils que nous employons pour que ces troubles instrumentaux soient les freins les moins importants possibles pour le développement intellectuel. Moi, c'est ça, mon truc. Donc, pendant des années, je crois que je me suis trompée. Un exemple, je repensais à ce que tu disais sur la nuque tout à l'heure. J'ai eu un enseignant qui est venu me dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai un enfant qui ne veut pas faire des culbutes arrière. » Et alors, je suis très ennuyée parce que je dois lui mettre une note en culbute arrière. Et ses parents sont venus avec un billet, un papier médical, disant qu'il ne pouvait pas faire de culbute arrière parce qu'il était TDA. Ah. Et alors, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que les autres font des culbutes arrière. Alors, ma première réaction, je l'avais déjà expliqué au PMS, mais ça a été des années de me dire, surtout moi qui ai eu des rapports avec le sport très conflictuels, si je dois compter le nombre de fois où j'ai survécu grâce à une culbute arrière, on s'en fout un peu. Donc avec toute mon arrogance, mais ça c'est mon passé de médiocre en sport, je dis au prof, est-ce que c'est vraiment l'essentiel ? Je suis la paix avec la culbute arrière. Puis je me dis, mais c'est complètement idiot. D'abord, qui suis-je pour dire que c'est plus important, moins important qu'une équation ? Le sentiment face aux autres, ben les autres ils font une culbute arrière, ils ne la font pas, ça n'a pas de sens. Et puis je me suis dit, non, mais au lieu de juger d'une activité ou de l'intérêt d'une activité par rapport à une autre, mon travail il n'est pas là. Mon travail il est de peut-être faire des liens entre des troubles instrumentaux et des attitudes, et puis surtout faire des propositions. Alors après, je ne sais pas du tout si je me trompe ou pas, parce que je n'ai pas l'enfant en face de moi, mais il est très possible que plier la nuque vers l'arrière, vers l'inconnu, éveille des taux de vigilance qui ne sont pas des informations qui sont menaçantes. Donc, on travaille avec l'enseignant, on se dit, mais est-ce qu'il faudrait peut-être lui éviter la collectivité pour le faire ? Est-ce que je peux l'aider en le touchant ? Est-ce que je dois mettre un plot pour que la sécurité augmente ? Est-ce que... Voilà, toutes ces questions-là sont plus intéressantes que de savoir s'il doit ou non faire une culbute arrière. Donc, sur l'intérêt... Alors, je dis souvent aussi aux enseignants, il va falloir bien choisir vos batailles, parce que les compétences, elles sont énormes. Bien choisir vos batailles et vous faire confiance. Moi, après une formation, quand les enseignants me disent « mais finalement, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne croyait, c'est gagné. » Les enseignants ont un pouvoir énorme, puisque rien ne se passe en dehors de la relation. Mais ça n'empêche qu'avoir un petit kit de survie dans sa classe, pour se dire « tout le monde n'est pas au même étage, tout le monde n'a pas les mêmes maturités instrumentales », eh bien, c'est pas mal. Et il y a une ingéniosité, mais de dingue, chez les gens qui ont cherché des outils adaptés aux enfants à difficulté instrumentale. Alors, tout a un coût, évidemment. Donc, on me reproche souvent de donner des outils qui coûtent, et bon, il faut démarcher, c'est pas toujours simple, surtout dans les écoles. Mais il y a plein de choses qu'on peut déjà faire et qui coûtent pas grand-chose. Alors, moi, j'avais surtout envie de travailler un peu là-dessus, et de faire les liens avec les difficultés instrumentales. J'espère que ça va fonctionner. On y va. Ah oui, mais je les ai pris en vrai, hein. Attendez. C'est le sac de Mary Poppins. Bon, avec le micro, ça va être facile. Et voilà, je le prouve, je l'ai. J'ai tous les formats, j'ai des grands, des petits, des sacs, des trucs de voyage, des montres, figurez-vous. Un des gros problèmes de ces enfants, c'est qu'il y a un chaos interne monumental. Donc, ce que les maternelles font, les calendriers, les plannings, qu'est-ce qu'on fait d'abord, qu'est-ce qu'on fait ensuite, qu'est-ce qui va se passer après. Alors, parfois, ça a l'air un peu rigide, mais ça mesure le temps qui passe. Vous avez 20 minutes pour faire quelque chose. Les enfants à troubles instrumentaux auront besoin, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de leur scolarité, d'être dans des contenants d'espace-temps, parce que c'est le chaos interne. Donc dire « ça va durer 20 minutes », ça ne veut rien dire. Donner un repère spatio-temporel de 20 minutes, ça c'est utile. Beaucoup d'enseignants me disent « ça va les stresser », mais ce qui les stresse, c'est surtout de ne pas savoir où on va. Moi j'aime bien cet outil-là. Évidemment pour les TDA, évidemment, mais comme tous ces enfants ont des difficultés d'organisation, dans l'espace et dans le temps, donnez-leur des renseignements, toujours en début de séance, si vous êtes vous avez des séances de psychomotricité ou des séances individuelles, ou si vous êtes enseignant, des repères de où on est, où on va, comment ça va se dérouler. Une structure, ce n'est pas une rigidité pour moi. Une structure, c'est une protection. Et ce genre de petit outil peut fort aider. Ça s'appelle des time-timers. Il y a tous les prix. Alors, il y a des bricoleurs qui font ça eux-mêmes. Moi, je ne le suis pas, donc je les achète. Mais bon. Voilà. Un petit time-timer par classe, ce serait bien, ou par local thérapeutique. Un autre outil, alors les fameux ciseaux, je les ai aussi. Hop. Vous avez des, plutôt que de se dire, oh ben voilà un dyspraxique qui ne peut pas coordonner ses mouvements pour découper, un kit de ciseaux pour dyspraxique. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que si l'outil vous ennuie, c'est que c'est un bon outil. C'est-à-dire qu'il va sur des automatismes que vous n'avez pas. Ça me donne aussi l'occasion de parler d'un malentendu énorme, je pense, avec tous ces outils, notamment avec le clavier. On m'a d'ailleurs fait remarquer à la pause, et à juste titre, qu'on ne parlait pas assez de la graphomotricité et des nouveautés, de l'évolution de tout ce qui est de l'ordre de l'écriture, parce que c'est terriblement intéressant. Donc, excusez-moi, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup parlé de ça. Mais il y a une grosse confusion entre mettre un outil à la portée de l'enfant et lui apprendre à s'en servir. Donc plein d'outils sont plaqués comme ça en disant ben, « il ne sait pas écrire, ben, un clavier. Il ne sait pas découper, ben, une paire de ciseaux. » Mais tout reste à faire. C'est-à-dire que l'automatisation que je vais peut-être régler avec un outil que je n'ai pas pu régler ailleurs, il passe quand même par l'apprentissage. Donc ce n'est pas l'outil qui règle le problème. C'est le travail, c'est rien vendre d'autre. Hein. Le travail, l'entraînement et la mise, si possible, en automatisation d'un outil. Donc il va falloir expliquer ça aux parents, parce qu'ils connaissent leurs droits, les décrets ont changé, les aménagements raisonnables sont contraignants. Moi, je peux que m'en réjouir. Mais ce n'est pas parce qu'on met un kit sur le bureau de l'élève. Alors très souvent, j'entends, mais il ne se sert pas de ses outils. Ben non. D'abord, parce que ce n'est pas gay, c'est des trucs pour handicapés, disent les enfants. Ben non, on dit, pas des trucs pour handicapés. Ce n'est pas des trucs pour handicapés. C'est des trucs, ben, vous pouvez toujours essayer de les convaincre. Ils se sentent tellement différents. Donc, il y aura non seulement à avoir des trucs, mais à avoir des procédés pour les faire passer. Qu'est-ce qui vous semble dans une classe si je mets un système, un plan incliné, par exemple? Génial, ça, le plan incliné. Vous gagnez 25% vitesse de lecture. Pour les mathématiques, c'est magistral. Quand l'enseignant dit « je descends », l'enfant, il descend, parce qu'autrement, pendant que l'enseignant descend, lui, il recule, ça ne va pas. Donc, il y a déjà plein de choses à faire sur un plan incliné. Les enfants ne le prennent pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut que tout le monde en ait un pour qu'ils se sentent plus étranges? Oui, mais est-ce que tout le monde a besoin de ça? J'ai envie d'avoir vos idées, moi, je ne sais pas ce que vous avez déjà essayé. Est-ce que le prof pourrait en utiliser un? Ce serait déjà mieux. Si vous, vous apprenez à utiliser des outils, alors l'enfant se dit, bah, peut-être que je suis, madame ou monsieur l'utilise. Donc c'est bien, c'est mieux que rien. Et alors pour l'instant, je teste, on va voir, parce que tout ce qui marche, marche pas longtemps et a ses limites. C'est-à-dire que je rends, il faut absolument que ces enfants qui entendent depuis qu'ils sont au monde, je vais être carré, mais depuis qu'ils sont au monde, ils déçoivent. Ils savent ça. Ils déçoivent tout le monde. Ils déçoivent leurs parents, ils déçoivent leurs enseignants, ils déçoivent la communauté. On achète, on dépense, ça ne va pas nécessairement mieux. Il est urgentissime pour moi que ces enfants entendent qu'on arrête de vouloir les aider. Alors vous allez me dire, tiens, c'est bizarre ce que vous dites, parce qu'on est quand même là pour ça. Ils n'entendent parler à longueur de journée qu'on va t'aider. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps, vous leur demandiez leur concours pour vous aider. Et ça, ça marche assez bien, c'est de dire à un enfant, en plus ça, ça les fait rigoler, écoute, tu me connais, hein, j'ai encore été acheter un truc là, super cher. Je me demande si je ne me suis pas fait avoir, ce qui les amuse. Et alors, j'ai pensé à toi, tu ne veux pas me le tester? Et du coup, soit il revient en me disant « Je confirme, tu t'es fait avoir. » Ça ne marche pas, ton truc. Ça veut dire qu'ils sont à l'abri. Ce n'est pas de nouveau eux qui sont désespérants après que papa et maman aient encore payé je ne sais combien pour un outil de Dieu sait où. C'est l'outil qui n'est peut-être pas bon. Ils sont libres. Ils sont libres de pouvoir dire « Ça ne m'a pas aidé. » Donc, je préfère toute la négociation. C'est pour ça qu'il faut être sur le terrain, parce que les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont que deux mains, hein, moi aussi. C'est-à-dire, mais on a quand même, on a ça, on donne, ils ne viennent pas les chercher, ils les oublient, ça ne va pas mieux. Mais non, c'est terriblement angoissant pour un outil de différenciation. Donc, vous devrez, il n'y a rien à faire, travailler la relation. Remettez-les en position de vous enseigner quelque chose. Acceptez d'être comme tout à l'heure dans la liste de pharmacie. Qu'ils vous voient patauger avec des outils. Alors après, on pourra... Puis c'est tellement gai de se dire, ben finalement, je suis aussi troublée que toi. Un autre outil, tout ce qui peut guider les yeux, ça c'est fondamental. Hein. Les guides, les gabarits, les lattes de lecture, les yeux sautent. En plus, dans cette génération qui a beaucoup, beaucoup de difficultés à positionner, à se poser. Donc tout ce qui peut être guide-yeux, lattes de lecture... bande fluo, enfin ça c'est des choses que je vais vous, si vous participez au séminaire, vous allez en avoir sur votre bureau, vous allez tout tester. Vous testez, c'est pour ça que c'est Tupperware, vous testez. On continue, il n'y a pas que ça, il y a plein de... Ah, ça j'aime bien. Plein d'enfants vivent comme une calamité le fait d'être observés. Et alors ils mettent des fardes, ils se planquent, ils sont un peu paranoïdes, ont l'impression que tout le monde les regarde. Ça s'appelle des pop-up. Moi, je trouve que c'est épouvantable. On va devoir vivre de plus en plus nombreux sur des petits espaces. Enfin, ça, c'est perso, hein, mais je trouve ça épouvantable. Et donc, ces enfants qui n'ont déjà pas l'envie... Ma collègue, elle a assez parlé des contenants. et du fond. Ils n'ont déjà que très peu d'intégration psychique de leur enveloppe. Alors tout le monde me voit, tout le monde me regarde, tout le monde me menace, tout le monde. Avec ça, vous avez déjà un gain de concentration. Le rouge n'est peut-être pas la couleur la plus heureuse, mais les enfants adorent, ce sont des espèces d'isoloirs. Il faut isoler. Isoler, c'est pas exclure, c'est protéger. Et donc, quand ils sont baignés dans une ambiance où il y a du bruit, où il y a de la lumière, où il y a trop de mouvement, ce sont des enfants qui perdent tous leurs moyens. Il faut les isoler. D'ailleurs, j'ai rien inventé, puisque tous les métiers à haute tension, où il faut faire des choses très précises, on les isole, on ne les met pas dans des halls de gare. Les traducteurs, ils sont isolés. Ben oui, parce qu'il faut une concentration exceptionnelle. Ah, il y a des gens qui ont gagné des prix de... Voilà un compas qui permet à des enfants dyspraxiques de ne pas devoir gérer cette énorme difficulté de devoir tourner et tenir l'écart en même temps. Alors je les vois, les pauvres malheureux, ils prennent un écart, et puis ils plantent, et puis comme ils poignent dedans, l'écart disparaît. Alors on remesure l'écart, et puis il y a des vis, mais comme ils vissent à l'envers, la vis tombe, vous voyez ces petites vis monstrueuses là, des compas, ils cherchent la vis pendant 2 heures, ils remontent, mais ça fait déjà longtemps qu'on est à autre chose. Et on revisse et tout est du même acabit, les colprites. On dirait qu'on les a inventés pour embêter les gens, enfin, en tout cas embêter les gens que moi je connais, c'est-à-dire que tourner dans un sens et puis voir que le tube sort, c'est gai, puis il tombe, faut le remettre dedans. Eh bien, tout ça existe pour des enfants en difficulté. Des tubes de colle où il n'y a que 2 mouvements à faire, qui sont lestés dans le fond pour pas que ça tombe tout le temps. Tout ça existe. Oui, mais c'est pour le spécialisé. Moi, je prétends que c'est pour tout le monde aujourd'hui. Parce que vous avez tellement d'écarts dans une classe. Alors, il y a des troubles là-dedans et il y a des difficultés. Mais il faut des outils. Ça devient, quand je parlais tout à l'heure de la norme, moi, je ne vais pas dire que je m'en réjouis, mais ça va être plus simple, finalement. Enfin, plus simple. Au moins, on va se dire, notre norme a changé. Dans notre norme, nous avons des gens hétérogènes. Et tout ce qu'on a fait depuis toujours dans le spécialisé va devenir des outils d'enseignement ordinaires. De l'aide à l'écriture, de l'aide à la géométrie, de l'aide à la lecture, de l'aide à l'oral. Les pictogrammes. Mais quand vous avez une classe à 80% des enfants qui n'ont pas la langue de l'enseignement, mais vous ne pouvez pas les laisser dans les écoles pour dysphasiques, il nous les faut. Tant mieux, on va rendre les choses plus simples. On va rendre les choses plus simples. Et c'est drôle parce que quand j'en parle dans le privé, avec des gens qui ne connaissent rien du tout à notre métier, et qu'ils voient l'énergie que je dépense pour aller me battre parfois, pour convenir que ce n'est pas du nivellement par le bas, que ce n'est pas de l'escroquerie, que ce n'est pas terrible de faire ça, les gens dans le privé, ils me disent « Mais enfin, si c'est plus facile pour ces gosses-là, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour tout le monde ?» Ben oui, moi, je ne demanderais pas mieux. Parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Mais pourquoi est-ce qu'il faut tellement se battre pour être sûr du diagnostic avant de simplement tendre la main pour dire « T'es maladroit avec cette latte, essaye celle-là » Symboliquement, vous devenez un pédagogue. Voilà un autre compas, amusant aussi, tout ça vous essayerez. Pour faire toutes les dessins géométriques que vous voulez, il n'y a plus que 2 coordinations de mouvement, j'ai compté, au lieu de 12, ce qui est quand même, par rapport au compas, imbattable. Et 12, j'ai pas tout pris. Alors, il faut mettre tout en 14. Ça, c'est devenu comme une religion. Il y a des gosses qui s'en sortent mieux avec du 14, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on écarte un peu les présentations, quand elles sont plus lisibles, plus claires, plus aérées, c'est mieux. Mais moi, je ne peux pas demander à un enseignant de prévoir pour toute sa classe que tout soit en 14, en ci, en là, ça reste des enseignants. Je préfère que l'enfant ait sa latte de lecture, voilà, qui met tout en 14. Et donc, du coup, de manière relativement discrète, moi, je m'en sers aussi, pour d'autres raisons. Je le mets, et voilà, je vois tout en 14. Ça va être très bien. Vous allez me dire, ça coûte combien, ça? Eh ben, ça ne coûte pas plus cher qu'une... J'ose plus dire latte, parce qu'on m'a dit à Paris que c'était... Vous ne connaissez pas, c'est une règle ordinaire. Alors, autre chose, j'ai pas tout mis parce que je voulais juste vous donner envie d'en connaître un peu plus. On peut aussi, j'ai pas d'autres photos, on peut formater les lectures avec les outils informatiques. On peut scanner des feuilles et les mettre en police 10. Il y a des maisons d'édition, la plume de l'argilette, les mots à l'endroit, enfin, tout ça est dans les notes, qui éditent, qui rééditent des livres pour mauvais lecteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une école, je trouve qu'un tiers de la bibliothèque devrait être constitué de livres pour mauvais lecteurs. Parce que le but du jeu, c'est pas de dire qui doit lire ou qui ne doit pas lire. Tout le monde doit lire. Oui, mais quel livre ? Et ce sont des livres qui sont réédités depuis la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Pour éviter que ces jeunes arrêtent à 14 ans de choisir Musti à la gare, qui serait bien. Alors, c'est bien Musti à la gare, mais ce qui, vous voyez, c'est sans cesse la même image, quoi. Vous avez vu, hein, un musée ? Regardez ce qu'il va choisir. Regardez, il compte les pages, hein. Contre les pages, hein, feignant. Ben oui. Vous imaginez que vous lisez comme tout à l'heure, évidemment que vous comptez les pages. Moi aussi. Et je prends Musti à la gare. Et je ferai semblant de m'y intéresser. À Musti. Il faut qu'on arrête de croire que ces gens ont des retards, que ces gens sont paresseux, que ces gens sont inintelligents. Ils font comme vous et moi, quand c'est pas jouable, ben ils sont malins. Ils prennent ce qui est possible pour être moins humiliés. Or, tout ça existe. Aujourd'hui, les écoles, de manière universelle, doivent s'équiper. C'est urgentissime. C'est urgentissime. Vous ne pouvez rien faire sur les troubles. Vous allez stimuler, vous allez encourager, vous allez... Mais le trouble, le cerveau va prendre le temps dont il a besoin, de toute façon. En revanche, ce que vous pouvez faire, et le plus vite possible, c'est de freiner les handicaps et les freins au développement intellectuel. Parce que ça, c'est dramatique. Quand un enfant tourne en rond pendant 3 ans, parce que tout simplement, il ne développe pas ses mathématiques, parce qu'il ne sait pas dénombrer à cause de ses problèmes oculaires. Enfin, c'est quand même... Ça existe.
Ou par manque de conscience de soi.
Oui, parce qu'il n'existe pas. Il ne pourrait pas exister puisqu'on ne le reconnaît pas. Il est qui ? Autre chose aussi important, lisez des histoires. Il existe aussi des petites collections de livres qui s'appellent « Au cœur des différences » où on raconte des histoires d'enfants à troubles instrumentaux. On raconte, et ce n'est pas du tout triste. Au contraire, on trouve des solutions, on en rit, on compense. Si on ne raconte jamais des histoires d'enfants comme ça, ils ont l'impression d'être dans un pays d'extra... Enfin, d'être leurs propres étrangers. Donc il faut absolument les reconnaître. Donc on peut agir sur les outils, on peut agir sur les livres, on peut agir sur les mathématiques, bien certainement, et la psychomotricité, les mathématiques, c'est quelque chose qui doit plus faire débat. Donc il y a un kit de survie, un kit de base qu'il faut se constituer. Moi je vais dans beaucoup d'écoles aujourd'hui où je vais bricoler sur les bancs. Vous avez vu nos bancs ? Ils sont tout plats, les bancs d'école. Alors comment on fait quand on ne voit pas la profondeur de champ, qu'on doit prendre un bic et qu'on ne sait rien faire d'autre que de pousser le plumier ? Ben, il tombe. Pas compliqué. Vous mettez du double face, une petite règle, enfin un petit bout de bois au bout du banc, l'enfant pousse, plus rien ne tombe, il n'est plus obligé de faire le clown pour aller ramasser ses affaires. Donc il faut customiser, il faut mettre du velcro pour que les pots ne tombent pas, mais c'est tout. On les met en îlot, vous imaginez ? Quelqu'un qui a un pot de couleur avec plein de pinceaux et en face, quelqu'un qui a fini son dessin. Et celui qui est là pousse le pinceau et fait tout tomber sur le dessin qui est derrière. Comment voulez-vous que celui de derrière dise « ce n'est rien ». Je vais recommencer, ne t'inquiète pas. Mais il tue, évidemment. Mais s'il y a du velcro, ça ne coûte rien. Vous allez chez Action, vous avez 150 velcro pour 2,30 €. Mais c'est vrai, vous mettez des petits velcros sur le pot, sur le bureau, paf, ça ne bouge plus. C'est fini. Alors après, oui, mais c'est pas gay, parce qu'après, pour enlever, ben oui, alors il n'y aura jamais le truc parfait. Mais quand on est simplement de bon sens, plutôt que de se mettre martel en tête sur ces troubles, et qu'est-ce qu'on va faire, mais regardez-les déjà vivre dans leur milieu, demandez-vous si... Quelque chose de tout simple ne pourrait pas déjà dire « Attends, ça c'est juste pas possible, quoi. » Des fards à rabat, mettre des A4 dans des chemises où il y a à peu près 1 mm d'amplitude. Les œillets que vous passez votre temps à coller, numéroter les feuilles, arrêtez de donner des... Remettez, si vous demandez à un enfant qui n'a pas de planification, je regardais les gamins avec leur cube, d'ouvrir une farde, de glisser la feuille que vous venez de distribuer, de refermer la farde et d'écouter ce qui va se passer ensuite, mais c'est juste pas possible. Maintenant, vous allez me dire, des parents, je regardais aussi l'habillage. Ce qu'il faut absolument entraîner aussi chez les gens, c'est des réflexes d'observation. Une instite me racontait vendredi, à la natation, c'est épouvantable, ils se rhabillent n'importe comment. Elle me parlait d'enfants à grosses difficultés. Mais t'inquiète pas, hein, pour se déshabiller, pour aller dans l'eau, pour aller ça, ils sont rapides. Alors je lui dis, attends, je prends 2 secondes de recul. D'abord, ils sont secs à l'arrivée, ils sont mouillés quand ils sortent, ce qui va déjà changer la donne. 2, on hurle que le bus va partir. Alors... ce qui est totalement faux. Ils ne partiront pas sans eux. Mais c'est ce qu'on dit. Donc le bus va partir. Je suis trempée. Je ne sais plus si je dois mettre mon slip avant mon pantalon. Tandis qu'à l'arrivée, je ne pouvais pas enlever le slip avant le pantalon. Ou alors, il faut être très souple. Alors il paraît qu'il y en a qui peuvent. Mais j'attends de voir. Donc forcément, instinctivement, j'arrache tout, ben, tout va bien. Mais après, dans quel ordre est-ce que je le remets? Mais ils s'en foutent, ils partent sans... ils remettent le pantalon, les chaussettes sont là. Prêts. Alors il y a une dame qui m'a dit, moi je sais qu'il faut mettre un tissu, parce que les chaussettes, ils les déposent dans l'eau. Donc c'est trempé après. Et donc après, les chaussettes sont trempées. Et donc quand on fait la liste de toutes les choses dans l'ordre que nous faisons sans y penser et qui demandent concentration à ces enfants, et après on va se moquer d'eux, parce que quand ils sortent de la cabine avec un truc à moitié fermé, un truc ci, un truc là, les remarques vont fuser, les autres copains. Et c'est cette espèce de maltraitance organisée ou inconsciente, hein, dans la majorité des cas inconsciente, qui fait que ça n'est plus jouable. Et qu'après, il faut quand même être visible. Alors, vous serez visible de toute façon. Soit par l'extinction, ce que Madame Paflaget, une autre, celle qui s'occupe des enfants adoptés, allez, docteur, allez, appelle le moment solo. C'est-à-dire, je ne suis plus sensible à rien, ni aux félicitations. Je ne viens pas vous chercher. Je ne suis plus là. C'est encore une manœuvre de survie, mais il y en a qui vont vous agresser, il y en a qui vont... Voilà, ce sont des enfants qui ne voient plus de possibilité de se développer, alors que je pense qu'il est assez... Allez, simple, c'est pas vrai. Mais il faut d'abord se refaire confiance dans notre bon sens et changer de camp. Et si je devais faire ça, je disais aussi l'autre jour, tiens, imaginons que je suis au Botswana, je sais pas, je vais remuter, hein, mais... Et je parle pas la langue, et je suis là avec mes enfants, et là-bas, on apprend à chasser. Tout nu, excellence. J'ai des images comme ça. Et il y a une réunion de parents, mais j'y vais pas. Hein. Tu vois, c'est toujours les mêmes qu'on ne voit pas. Ben oui, mais j'y vais pas. Ça m'intéresse pas. C'est pas ma culture. Je ne comprendrai rien à ce qu'on va me dire. On va me reprocher de pas avoir appris à chasser. Mais je ne suis pas chassée moi-même. Je vais être complètement out. Donc simplement. Et c'est très amusant de temps en temps d'accepter de se dire, et si j'étais de l'autre côté, je passe de l'autre côté du filtre, j'accepte ça. Parce qu'autrement, ces enfants-là, je vais terminer par une petite anecdote, petite Anouk, petit enfant dysphasique, très 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 en difficulté, mais qui n'a jamais doublé parce qu'elle travaille comme une malade, et elle est dans un environnement où on ne la suit pas, on la poursuit. Et elle ne lâche pas, le tien bon. Et elle, tous les jours, chaque fois que je la vois, elle me fait un cadeau. Comme la dernière fois, elle m'a dit « Ah, en calcul, j'ai fini la première. » Ce qui m'inquiète toujours, évidemment. Très bien. Parce qu'elle me dit « Il y avait piège. Ah, » oui. Madame a dit « Donnez 2 par personne. » Et j'ai dit « Alors, il ne fallait rien faire. » Elle m'a dit « Pourquoi ? » ?»« Ben, il n'y a personne. » Attends, personne, c'est personne. Ça va faire très Raymond DeVos, ça, vous allez voir. Mais une personne, c'est pas personne. C'est plus personne. Il y a une personne, donc il n'y a plus personne. Il y a une personne. Et elle me regarde m'enfoncer lamentablement, On dit, mais alors finalement, il y a quelqu'un ? Oui. Jamais, je crois, j'ai 50 ans, je le répète, je n'ai pensé que ce mot-là pouvait générer autant de difficultés. Ou Akram, qui n'est pas loin de chez vous, il est aux pagodes, Akram, enfin il n'y est plus maintenant, il est en secondaire, qui me doit me mettre 38 sur une droite graduée. Je l'ai customisé, ce gamin. Il a un bracelet jaune à gauche. Il a des gommettes pour ce qui est à droite. Il a... il est équipé. Hein. Alors il arrive là, et le prof dit, son enseignant, un monsieur, mais 38 sur la droite. Alors il prend tous ses outils, ses gabarits, il pose tout, il mesure, et puis il met rien. Il se dit, mais attends, tu sais faire ça. Je me dis, il a pas pu planifier. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ordre ? Impeccable. T'avais tes outils ? Oui. Des bracelets ? Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il me dit, mais 38, il est à gauche. Ben oui. On me dit de le mettre sur la droite. Et quand je pense que c'est moi qui lui ai dit, dès que tu vois droite-gauche, t'allumes tous tes radars, tes bracelets, tes gommettes, danger, quoi. Alors, il s'est dit, c'est à gauche quand même, mais on me dit de le mettre sur la droite. Mais comme je suis nul, parce que ça, c'est bien intégré, c'est que je n'ai pas compris. C'est que je n'ai pas osé. Un enfant qui est en sécurité, que vous aurez reconnu, va dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sur la droite ? Mais non, c'est à gauche. Et puis, il s'en fout, il va le mettre sur la gauche. Mais pas lui. Ah, et me voilà de nouveau en train de lui dire, mais on peut être à gauche sur la droite ? Et donc, vous allez recevoir des cadeaux à longueur de journée si vous prenez le risque de quitter vos automatismes, de quitter ce que vous croyez d'universel, parce qu'on croit qu'on enseigne l'universel, ce qui est totalement faux, de quitter ce qu'on nous a entraîné à non seulement recevoir, mais à transmettre, pour vous dire, et si ces enfants étaient sur une autre rive, et moi je le disais tout à l'heure en aparté, je n'aurais jamais la réponse, mais je me demande quand même comment ils nous voient. De temps en temps. Parce que on doit être curieux aussi, hein. Pour un enfant qui a de telles interfaces. Mais je ne le saurais pas, parce que ils n'auront pas tous les capacités de me le transmettre, et puis je n'aurai pas toujours l'intelligence d'écouter, à mon avis, et de voir et d'entendre. Mais je suis sûre qu'on est aussi bizarre pour eux qu'ils ne le sont pour nous. Je terminerai en disant quand même, pour ne pas. Parce que moi je veux rester positive, que. Heureusement qu'il y a des troubles instrumentaux. Parce que quand vous lisez les biographies des créateurs, des inventeurs, des opposants, des rebelles, des gens qui ont fait changer quelque chose dans ce monde, ben, ils avaient souvent des problèmes. Et si vous vous intéressez à ça, il y a un merveilleux livre qui s'appelle « Les mots d'artiste » M-A-U-X, où des psychologues et des neuropsychologues et des thérapeutes ont repris certains maîtres d'œuvre, aussi bien dans le monde des sciences que de l'art, que du sport. Et en fait, ces gens avaient comme point commun des troubles instrumentaux. Donc, c'est autre chose. Je n'aime pas le mot déficience. C'est autre chose. Ça nous fait découvrir une palette qu'on n'a pas quand on n'a pas de troubles. Et c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Moi, je voulais terminer là-dessus. Mais évidemment, c'est un avis personnel. Alors, je voulais quand même nous laisser un tout petit peu de temps, c'est très court, mais à ma collègue et à moi, pour que vous puissiez, ce qui n'a pas été possible avant la pause, poser des questions. On n'a plus énormément de temps, mais il y a peut-être des choses qui vous brûlent, là, que vous devez dire maintenant.
Et Daniel, il faut aussi présenter les trois...
Oui,
tu t'en charges.
Bon, alors les trois séminaires, c'est-à-dire que souvent, les formations, les journées de conférences, on nous met des appâts, mais après, alors on a eu envie de prolonger de manière très différente, c'est-à-dire plutôt table ronde, échange, discussion, ça se passera, si tout va bien, dans mes nouveaux locaux à partir de janvier. Et on a décidé de faire trois thèmes. On sera là toutes les deux, mais nous n'animons pas les trois personnellement. Donc moi, je me chargerai d'une soirée bilan, lecture de bilan, c'est-à-dire on amène des bilans. Je vous montrerai les bilans pour lesquels j'ai été formée en Hollande, qui sont à mon avis révolutionnaires, c'est des bilans d'efficacité. Ça change toute la vision. Donc des bilans d'efficacité ou des bilans de déficience, que tirer d'un bilan d'un neuropsy ? Concrètement, on nous dit, il a ça, 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 et ça veut dire quoi concrètement quand il écrit ? Parce que moi je veux bien, mais à un moment donné, il faut écrire, lire et calculer. Sinon le décrochage, il va s'opérer. Donc ça, les bilans, que peut-on en tirer, comment les traduire ? Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et alors une soirée outil où j'essaierai de vous montrer comment on modifie avec un scanner, un petit logiciel, comment on se sert d'un compas, on va customiser des bancs, on va tester, et là je me ferai un plaisir de vous remettre en situation de difficulté. Je me demande même si je ne vais pas vous faire travailler à genoux avec un banc à cette hauteur-là. Comme beaucoup d'enfants qui passent leur vie arc-boutés parce qu'ils ne voient juste pas ce qui est sur leur bureau.
Et une troisième soirée où des orthoptistes pour avoir des visions différentes justement de personnes qui travaillent avec les troubles instrumentaux dans l'objectif vraiment de travailler en pluridisciplinarité et d'apprendre à se connaître et de savoir comment, à qui référer les enfants en difficulté.
Et au niveau pratique, donc je rappelle que ces séminaires auront lieu les vendredis 15 et 29 janvier et le 19 février de 19h30 à 21h30. L'adresse est Hortensia Lane, numéro 11, à Strömbäck.
C'est Grimbergen, en fait.
Grimbergen.
Mais je suis en procès avec les anciens propriétaires pour savoir si on peut se garer devant, donc je vous tiendrai au courant.
Et le coût, c'est 90 euros pour les 3 séminaires. Alors, si vous êtes sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez me le dire ici après la conférence. Pour les inscriptions, ce sera le même procédé que pour la matinée ici. Donc, les inscriptions seront prises en compte quand vous aurez versé les 90 euros sur le compte de la BPA. C'est le compte sur lequel vous avez versé ici pour la matinée. Les séminaires auront lieu s'il y a un minimum de 10 personnes, avec un maximum de 25 personnes. Si maintenant, il y en a 40, ben, on fera deux fois le cycle, quoi. Ça va ? Voilà, maintenant, si vous voulez poser des questions... Ou si vous voulez aussi plus de renseignements, vous pouvez toujours aussi écrire un mail sur le même, sur conférence@bpa.gmail.com ou sonner sur le GSM qui était noté sur la fiche. Merci beaucoup.
Merci aussi. Yes. Yes. Oui, moi aussi, je me sens creux.